Aujourd'hui, on va essayer de terminer la partie qu'on s'était assignée pour la dernière fois. Mais avant ça, j'aurais voulu un petit peu récapituler quand même. Puis si jamais vous avez déjà des réflexions par rapport à la matière de la fois précédente, pourquoi pas, avant qu'on aille plus loin. Donc, on en est arrivé à un moment un peu clé quand même dans l'histoire des actes, hein, puisque c'est l'entrée, j'allais dire, spectaculaire des païens dans la communauté messianique au travers de l'affaire Corneille. Et on en était rendu la dernière fois au verset 1 du chapitre 11. Et je vais d'ailleurs le relire avant de faire le reste de la lecture. Ce verset 1 disait que les apôtres et les frères établis en Judée avaient entendu dire que les nations païennes, à leur tour, venaient de recevoir la parole de Dieu. Donc voilà, on s'était arrêté là. Je pense qu'on avait vaguement commencé à parler de ce verset, mais c'est pour ça que je voudrais quand même réenclencher en vous faisant quand même observer que les verbes de ce premier verset du chapitre 11 sont tous à l'imparfait, ou en tout cas une forme passée, et que la formulation particulièrement « avait entendu dire » laisse quand même supposer, du point de vue absolument logique et grammatical, que Pierre est donc resté à Césarée. Parce que pour que les frères de Judée, donc établis en Judée, entendre parler, il a fallu que Pierre reste là-bas et que le bruit circule. Or, nous savons que, contrairement aux idées préconçues, à cette époque-là, on voyage quand même énormément, et en particulier les commerçants. Donc, nécessairement, ce qui s'est passé à Césarée commence à être connu, d'autant plus que le contenu de ce qui s'est passé à Césarée est plutôt hors norme. Puisque tout d'un coup, les païens ont envahi la communauté messianique. Et ça ne passe pas inaperçu, et tout le monde en parle. Ce qui est assez intéressant quand même dans ce premier verset aussi, c'est que on parle de la Judée, mais on ne parle pas nécessairement de Jérusalem, qui se trouve en Judée. Donc c'est un peu étonnant. Mais en tout cas, quand on dit que les frères, c'est donc les églises messianiques, les frères qui sont établis en Judée, sont déjà au courant ou ont déjà entendu parler de ce qui s'est passé à Césarée, donc de l'entrée des païens dans la communauté messianique. Et donc, on imagine très bien, surtout en lisant la suite du verset, que Pierre est resté, conformément à la demande de Corneille et de ses invités, est resté de manière un peu durable à Césarée. Bon, on ne sait pas combien de temps, mais peu importe. Mais je ne résiste pas quand même à l'envie de vous lire, et d'ailleurs pour toi c'est dans la note, de vous lire quand même ce qui se trouve dans d'autres parchemins concernant cette histoire, d'autres manuscrits, dans ce qu'on appelle la variante occidentale. Et voilà ce que ce texte dit. Donc, je vais d'abord lire la Tob. Donc, lorsqu'on lit les versets 2 et 3, si vous voulez. Lorsque Pierre remonta à Jérusalem, les circoncis eurent des discussions avec lui. « Tu es entré, disait-il, chez les incirconcis notoires, et tu as mangé avec eux. » Voilà, le reste sera pour une prochaine fois. Et donc, dans la variante occidentale, le verset 2 dit ceci. « Pierre, au bout d'un temps assez long, décida donc de se mettre en route pour Jérusalem. Il s'adressa aux frères pour les affermir, sous-entendu de Césarée, sous-entendu les frères païens dans la communauté messianique, puis il partit, faisant à travers les campagnes, donc en remontant vers Jérusalem, faisant à travers les campagnes de fréquents discours et instruisant. Donc il s'arrête partout où il y a une communauté. Et quand il arriva chez eux, sous-entendu Jérusalem, il leur annonça la grâce accordée par Dieu. Donc il leur dit, Dieu a accordé sa grâce aux païens. Mais les frères circoncis eurent des discussions avec lui. Voilà, c'est un verset un peu plus long que notre formule du verset 2, mais qui montre bien que très tôt, parmi les manuscrits récoltés, très tôt, on parle d'un temps assez long passé par Pierre à Césarée dans le but d'instruire, etc. Plus d'un temps assez long pour remonter à Jérusalem, puisqu'il s'arrête partout. Donc voilà, on peut mieux comprendre peut-être la portée de ce texte. Alors, on peut estimer, et c'est ce que je vous avais dit, je crois, la fois dernière, que les apôtres, enfin le collège des apôtres et la plupart des frères de Jérusalem savent juste le strict nécessaire. C'est-à-dire qu'ils savent que les païens ont été touchés par la grâce de Dieu. Point. Mais ils ne savent pas comment ça s'est passé, ni pourquoi Pierre a accepté, d'une certaine manière, de trahir les valeurs du judaïsme en acceptant de loger, de manger avec des païens, et pas n'importe quel païen, en tout cas des Romains pour certains d'entre eux, et même un officier de l'armée. Donc voilà, c'est quand même pas triste, quoi. Et donc, il leur manque l'information cruciale du contenu de la vision de Pierre, le contenu de ce qui s'est passé réellement à Césarée, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit alors que Pierre était en train d'enseigner. Tout ça sans aucune intervention humaine, pas d'imposition des mains, rien du tout. Et on comprend mieux, peut-être, quand même, l'indignation des gens de Jérusalem quand Pierre revient, l'air de rien. Il commence à leur dire voilà, Dieu a accordé sa grâce aux païens, mais eux ils sont pas contents en fait. Voilà, donc on va y venir à ce deuxième verset où on nous parle des circoncis qui eurent des discussions avec lui. Si on traduit littéralement d'ailleurs le grec, des hommes qui ont encore, quand il parle des incirconcis, hein, dans le verset 2. Lorsque Pierre remonta à Jérusalem et circoncis eurent des discussions avec lui, tu es entré, disait-il, chez des incirconcis. Et en grec, quand on traduit, c'est des hommes qui ont encore leur prépuce. Donc c'est très clair.
Ouais, c'est
clair. Ouais. Donc, nous, on ne l'a pas, mais eux, ils l'ont et ça ne va pas.
Ça va pas
chose, il y a quelque chose qui ne marche pas, quoi. Ok. Est-ce que j'avais. Quelle question j'avais posée pour ce verset 2 et 3 ? C'est plus
alors,
vraiment.
De Pierre, quelle est la réaction des croyants dans le juif de Jérusalem ?
Comment vous l'avez ressenti, cet accueil à Jérusalem ?
Froid.
Oui.
Ouais.
Parce que Pierre est quand même le chef de file. Hein.
Oui.
Voilà. Donc on devrait peut-être l'accueillir avec une certaine déférence, je ne sais pas. Mais là, on sent bien que. C'est pas qu'il ne soit pas le bienvenu, mais c'est qu'on lui en veut. Quelque part, il y a quelque chose qui ne plaît
pas.
En tout cas, au parti le plus carré parmi les juifs messianiques de Jérusalem.
Est-ce qu'on a une idée de quelles étaient les activités de Pierre à Jérusalem ? Quand il part comme ça, il manque dans l'assemblée ? Ou est-ce que d'autres frères prennent sa place ou...
On a vu qu'il y avait quand même des frères très actifs hein, dans l'histoire. On a eu l'exemple d'Étienne, etc. Donc, ça manque pas de gens qui enseignent, etc. Lui avait une place quand même importante dans l'enseignement, mais il est surtout celui qui tient le collège des apôtres, j'allais dire, dans la bonne direction. Quand même le chef de file, l'air de rien. Donc sans doute que sa voix a quand même une certaine importance, et on l'a vu dans notre étude des actes, c'est souvent lui qui prend la parole, même si d'autres la prennent, on va d'abord citer Pierre. Et Pierre prit la parole, puis peut-être parfois d'autres, etc. C'est quand même que son avis compte. Or là, comme tu le soulignes, il arrive à Jérusalem et puis on boude un peu. Quoi, hein. Mais c'est plus que bouder. Hein.
C'est quand même un fort changement.
Oui, on fait des reproches.
Oui,
ils ont pas vécu le truc,
c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas comprendre.
Exactement. Ça, je ne comprends pas, tu vois. Parce que, oui, mais Pierre a reçu des instructions du Seigneur.
Oui, mais ça,
ils ne savent pas.
Attends.
Ah oui, pardon.
Ils ne savent pas.
Mais, disons, Pierre, tu as dit, au sommet de la hiérarchie des Juifs, ils savent quand même bien que le Seigneur est venu pour prolonger la parole et aller au-delà de leur...
En théorie, oui.
Oui, je sais bien, en théorie. Donc maintenant, comment est-ce que je vais dire ? y a Pierre qui est interpellé, qui a eu, comme tu dis, des visions, qui a eu des apparitions. Donc il est plus motivé parce que les autres ne les ont pas eues. Mais et les autres devraient quand même s'interroger, parce qu'ils savent quand même bien qu'on doit propager la parole. Donc tu vois, c'est ça.
Pourquoi ça, revenir ils pas et être compris, ils pas compris.
Mais même Pierre n'était pas...
Il n'était pas...
Jusqu'à sa vision, ils n'ont pas beaucoup ouvert la porte aux païens.
Mais pourtant, dans l'Évangile, Jésus a dit que tous les animaux étaient purs. Qui sortait de l'homme
qui pose problème.
Donc il leur a dit bien clairement de son vivant. C'est ça qui est surprenant quand même.
C'est ça qui me...
Mais c'est là que tu te rends bien compte que même du temps du Jésus historique, tous les disciples ne comprenaient pas ce qui se passait. Non.
Mais oui, il y a plusieurs fois dans un... Je ne sais plus dans quel évangile, on dit que les apôtres ne comprennent pas.
Ah, hein. Bah oui.
Dans mon version, c'est ISV, LSV, Louis II. Il dit les fidèles circoncis. Je veux savoir, les fidèles, c'est aussi marqué
en grec.
Le premier manuscrit, donc le grec, est-ce qu'il a souligné aussi les fidèles?
À quel verset?
Le même verset 2, les fidèles circoncis.
Oui, ce qui est marqué ici, c'est quoi? Les fidèles circoncis.
Oui, non, en grec, c'est ceux qui appartiennent au groupe des circoncis, quoi, en gros. Il n'est pas question de fidèles.
Non, c'est pas pourquoi ils ont mis cet adjectif fidèle.
Ah ben en français.
Parce que voilà.
Très souvent dans nos traductions, il y a des choses qui ne sont pas dans l'original. Hein.
C'est ça. Donc parce que voilà, les circoncis qui pourraient reprocher Pierre n'était pas n'importe qui. C'est pourquoi tu cherchais le mot fidèle.
C'est pour indiquer
ça m'amène à l'argument que bon, on trouve c'est en Galates chapitre 2 je pense quand Paul disait après avoir aussi reçu l'appel des incirconcis pour atteindre les incirconcis il n'est pas allé directement à Jérusalem mais après il est allé bon, il dit comment c'est passé. Alors il dit qu'il est allé rencontrer Pierre. Et puis il aussi, après il dit qu'il est allé encore une fois pour rencontrer non seulement Pierre, mais Jacques et Jean. Ce sont les trois piliers. Il souligne les trois piliers. Ces gens qui reprochaient Pierre, je pense, je ne suis pas sûr, j'ai pas fait une étude sur ça, mais c'était peut-être le noyau de l'Église à Jérusalem.
En tout cas, il est clair que ce sont des Juifs messianiques à Jérusalem, vraisemblablement pas n'importe quel frère. Je ne pense pas que le frère de base serait venu voir Pierre en lui disant « Qu'est-ce que tu as foutu à Césarée ?» Mais des gens influents, évidemment. Et la formulation du grec laisse entendre que c'est plutôt le clan de ceux qui sont un peu à cheval sur les valeurs, sur les notions de pureté, d'impureté, etc. Les autres, parce que quand même parmi le courant messianique, il y avait aussi des prosélytes, même à Jérusalem. Donc voilà, là c'est vraiment un clan bien spécifique, et peut-être que tu n'as pas tort de dire oui, c'est ceux qui sont assez proches de Pierre qui peuvent se permettre de lui dire
Par rapport à ça, alors, pour nous aujourd'hui, ça peut être facile à comprendre. Non. Mais pour eux, c'était la première fois que l'évangile commence à aller même aux non-juifs. C'est toujours nouveau pour eux. Et je comprends pourquoi ils n'ont pas... Bon, voilà. Pierre aussi, vous savez comment il a la vision, et puis c'était dur pour lui aussi.
Il a mis du temps.
Il a refusé trois fois.
Oui, mais ça, je comprends qu'on puisse être interpellé et changer tout, parce que c'est quand même une fameuse transformation, une évolution. Mais il a quand même obéit, il a quand même fait un fameux pas.
C'est clair.
Si tu veux,
C'est pas une initiative politique, hein. C'est pas lui qui a décidé.
Autre chose. Hein.
Si tu veux, il est donné un ordre. C'était pas qu'il a compris et puis il est allé non, c'était un ordre.
Il a obéi
l'ordre.
Et puis il peut comprendre après.
Oui, donc je vois qu'il a obéi, l'ordre qui vient de Saint-Esprit. Pas même je ne pense pas. C'est après qu'il a dit, oh, maintenant je comprends que toute personne qui. Donc c'est après qu'il a dit ça.
Quand il part de Judée qui va à Jérusalem, et comme a dit Yves, il a, comme on dit, prêché ou faire des réunions ou quoi. Donc à ce moment-là, il a fait plus qu'obéir. Hein. Il a assimilé ce qui se passait.
Oui, après en tout cas.
Après la Judée, je parlais.
Pas tout à fait tout de suite. Hein.
Vous allez vous allez voir que c'était une question très, très pertinente. Si tu lis même Galates, après, Paul continue à expliquer comment le problème était un peu plus grand que ce que nous pensons. Mm-hmm. Parce que, même Galates, chapitre 2, même, il disait, voilà, Pierre, il était avec les incirconcis, mangea avec eux, mais après avoir vu ses fidèles circoncis, il s'est retiré. Il s'est retiré, il n'a pas voulu continuer à manger avec eux. Et voilà, Paul disait, non, je ne peux pas rester sans toutefois dire quelque chose. Il a aussi reproché Pierre directement. Pierre, qu'est-ce que tu fais? C'est pas... Donc, je vais te montrer combien. Toi et moi, aujourd'hui, bon, c'est facile à comprendre. Mais pour eux, c'était la première fois que l'Église commence.
Effectivement. Et puis, il faut bien comprendre les conséquences, parce que les juifs messianiques qui acceptent l'idée que les païens puissent faire partie de leur communauté savent très bien que ça va rendre plus radicaux les gens du judaïsme non messianique contre l'Église. Donc il y a sans doute aussi des craintes de ce qui risque d'arriver. Il y a déjà eu la première persécution, rappelez-vous, à Jérusalem. Donc il n'y a personne qui a envie d'en vivre une deuxième ou une troisième. Et donc la décision n'est pas facile.
Mais la conséquence, c'est quand même qu'ils vont être chassés. Hein.
Oui, mais enfin, pas tout de suite, mais non, voilà.
Ah oui, mais quand même. Ouais.
En tout cas, tant qu'il n'y a pas de communauté messianique ouverte, si tu veux, à Jérusalem même, ça pose moins de problèmes. Qu'il y ait des messianiques avec des païens en Judée, puis aux confins de la terre, tout le monde s'en fout, à la limite. Mais à Jérusalem, c'est là que ça pourrait être beaucoup plus délicat. Et pour l'instant, il y a des prosélytes, ça c'est clair, dans la communauté comme partout ailleurs. Mais pas encore des gens qui viennent vraiment en plus des Romains, quoi, tu vois.
Oui. Quand même fort. Alors, on voit le verset 1 qui dit que les apôtres et les frères, ça me donne l'idée que toute l'Église a été un petit peu secouée. En
à Jérusalem, païens, ça.
Il n'y avait pas que les apôtres. Donc, les apôtres, c'était, Pierre n'étant pas là, mais c'était les 11. Plus tous les frères, qui pour moi je traduirais les frères de l'Église, ça a dû faire du ramtam. Hein. Et ils ont dû pester pendant quelques jours en attendant Pierre.
Le retour, hein, qui prenait son temps clair. De rentrer, apparemment.
Et la question, pour moi.
Ah, lui, il assume sa mission première.
Oui,
hein.
Oui, jusqu'au bout.
Hein. Il ne dévie pas de sa mission, qui est je fais une tournée dans toutes les églises de Judée. Césarée étant une parenthèse, et je remonte tranquillement, puis on verra bien.
Et à cette question, je pense qu'on peut vraiment dire qu'il n'était pas encore prêt de concevoir que les païens pouvaient recevoir la nouvelle naissance.
Je ne suis pas d'accord.
Il a mentionné quelque chose, Yves, théoriquement, oui.
Oui.
Mais pratiquement, parce que c'était clair, dans la commission, donc quand Jésus les a
envoyés,
c'était clair. Allez dans les nations, pas seulement dans les nations,
en dehors de
Jérusalem, Judée, Samarie et.
Certains n'ont pas encore acquis ça, on peut dire
qu'intellectuellement, tout le monde a entendu. Et plus ou moins compris que c'était un message assez ouvert, mais dans les faits, on a bien vu en lisant les actes, dans les faits, dans la pratique, l'Église ne s'est pas encore donné comme mission de toucher les païens. Et c'est pour ça qu'il y a cette histoire de Corneille avec les visions respectives de Corneille et de Pierre, où Dieu intervient lui-même pour mettre un terme à cette espèce de freinage de l'Église par rapport à la mission que tu l'indiquais tout à l'heure, la grande mission de l'envoi dans le monde de tous ceux qui croient en Jésus pour voilà, toucher les nations, qui est en même temps la réalisation d'une promesse de la Genèse. Hein, si Abraham doit avoir des enfants dans toutes les nations, bah, il faudrait peut-être que ça se développe un petit peu, quoi.
Tu as dit une chose, c'est vrai que nous, connaissant la Bible et avoir 2000 ans de, disons, d'histoire, c'est vrai qu'on comprend mieux que celui qui l'a vécu sur place. Oui, c'est certain. Il est dans une certaine éducation, un certain milieu, etc. Et toute évolution importante, parce que c'est un des actes importants.
Une révolution.
Ah, oui, c'est une révolution. Ça interpelle. Mais disons que... Il y a d'autres choses qui interpellent aussi, quoi, quand même. Hein. La résurrection du Seigneur, et tout ça, ça interpelle quand même pour quelqu'un. D'où c'est parce qu'on a les textes.
Oui, puisqu'on sait l'ensemble.
Ben oui, c'est ça.
Les évangiles, oui. Ils ont été écrits quand... Moi, je suis nulle en histoire. Hein. Je ne préfère jamais rien. Tu vois, parce que je me dis aussi... Nous, on a cette base où il est écrit que, que Jésus a dit qu'il les envoyait. Et si ça se trouve, ils l'ont réalisé qu'après ces événements-là. Et c'est à ce moment-là qu'ils l'ont écrit. Parce
mais c'est sûr, ça. Nous, on a de l'avantage pour ça.
À l'époque, il n'y a quasiment rien.
À cette époque-là, il y a
à part le Tanakh, à part l'Ancien Testament du judaïsme, c'est en cours. C'est en cours de composition.
Les premières lettres de Paul au Thessaloniciens, c'est dans les années 50.
Voilà.
Et le premier évangile, Marc, c'est entre 65 et 70.
Et là, on n'est pas, dans ce qu'on est en train de lire, on n'est pas tout à fait en 50.
Non,
là, on est entre 45, je dirais, et 50, en gros. Donc, nécessairement... on se rappelle des enseignements de Jésus.
Ouais. Tout revient.
On se rappelle de ce que les prophètes disent dans l'Ancien Testament, de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Mais eux, ils ne sont pas au temps où les lettres de Paul circulaient, quoi, tu vois. Ils n'en sont pas encore là. Donc, ils n'ont quasiment rien d'un point de vue Nouvelle Alliance pour comprendre. Par contre, ils ont bien les paroles que Jésus a prononcées, qu'il leur a dit, il faudrait peut-être le faire. Hein, voilà, bon. Puis le Saint-Esprit s'en mêle et puis on voit que ça part. Alors maintenant, revenons à notre texte.
Je comprends quand même qu'il y ait une réunion, vais-je dire, quand Pierre
rentre, oui.
Et je comprends qu'il y ait une explication.
Alors, je ne sais pas ce que vous avez dans votre traduction française. Dans la tobe, on a... Le verset 2, lorsque Pierre remonte à Jérusalem, les circoncis eurent des discussions avec lui. C'est très cool, discussion.
Il y a des reproches.
Oui.
Oui.
Des reproches et autre chose dans une autre version.
Critique, c'est ça que tu as dit ? Tu as dit quoi, toi ?
Eurent des discussions, parce que la tobe est très gentille.
Oui.
Je trouve. Tu sais, on a l'impression, viens boire un café, Pierre, on va un peu parler de ce qui s'est passé à cette heure.
Le verset 3 qui dit bon, comment il lui a demandé cette question. Ce n'est pas la même question, mais tu es entré chez les incirconcis, tu as mangé avec eux. Comment est-ce que le ton était
Ou
bien c'est parce que c'est affirmatif, tu vois.
Tu n'es pas marqué.
C'est pas même.
On sait que.
On sait que. Tu vois. Alors, c'est pas une discussion facile.
Alors, bon, il faut bien. Je vais quand même essayer de vous donner ce que le grec dit parce que ça vaut la peine. Littéralement. Et c'est très fort, bien plus fort que tout ce qu'on a dans nos versions françaises. Il dit les circoncis prenaient à partie Pierre. Mais le grec ajoute même contre. Donc ils sont contre lui. Et ils sont plusieurs influents à lui demander des comptes, en réalité. Donc on est très proche quand même d'une situation de blâme. Comment tu as pu faire ça ? Alors, ok, que Dieu touche les païens, que les païens n'ont qu'à se réunir entre eux, tu vois, mais que tu oses couper les ponts avec le judaïsme en logeant et en mangeant chez des païens, ça, c'est pas possible. Et donc, on voit bien que le reproche n'est pas sur le fait que les païens suivent la parole de Dieu, ni sur le baptême des païens. Le reproche est sur la notion de pur et d'impur. On est toujours bien attaché aux valeurs du judaïsme, ce qui est tout à fait compréhensible.
C'est intéressant ce que tu dis là. Je n'avais jamais vu ça comme ça.
Ah oui.
Mais relis, hein.
Ils accepteraient donc les non-circoncis.
Mm-hmm.
Ils les acceptent. Tant qu'on ne se mélange pas.
Voilà, c'est ça.
Oui, alors c'est plus d'acceptation. Alors, hein.
Ben, ils acceptent qu'ils aient la foi. Mais si alors, tu veux, pas
le premier verset, le premier verset est très positif. Finalement, ils constatent que les païens viennent de recevoir la parole de Dieu. C'est encourageant.
Ben ouais.
Mais là où ça ne va pas jusqu'au bout, c'est dans l'idée. On ne va pas pouvoir faire une agape avec eux, ni prendre la Sainte Seine.
Ouais. Ça, ça ne me va pas.
C'est ça qui nous sépare.
Ouais. Est-ce qu'ils étaient vraiment sûrs que recevoir la parole que Pierre a prêchée à eux, et aussi recevoir le Saint-Esprit, est-ce qu'ils étaient sûrs que réellement ça suffit, ça, ou bien ils pensaient qu'ils doivent ajouter quelque chose pour devenir vraiment les vrais chrétiens.
Voilà. Eh bien, c'est ce qu'on va retrouver plus tard. Alors là, ce n'est pas vraiment le cas. On n'est pas dans un reproche qui est de dire « t'aurais dû les circoncire pour qu'ils puissent entrer dans l'Église ». Mais on retrouvera ça dans Acte 15. C'est-à-dire le débat sur l'obligation aux païens non circoncis de se circoncire pour être acceptable dans la communauté messianique. Je ne parle pas du judaïsme traditionnel. C'est quand même ressorti à un moment donné. Ça a fait une énorme dispute, dont on parlera plus tard. Hein. Mm-hmm. Donc oui, c'est un vrai problème. Et on voit bien que même après l'explication qui va avoir lieu ici, au chapitre 11, au chapitre 15, on en est encore à avoir des problèmes avec la notion de rituel pur, impur, circoncis, pas circoncis, etc. Parce que ce n'est pas si simple que ça, la révolution. Vous voyez, même quand c'est Dieu qui l'impose.
Les rituels, c'est imposé par Dieu,
circoncision ou pas ? Oui, c'est dans les codes de la loi, etc. Donc oui, ça fait partie.
C'est ça que je pose la question.
Ça fait partie du béaba.
Oui, dès la jeunesse.
Dès la jeunesse. Oui, très tôt.
C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que la circoncision,
c'est
oblige, disons, aussi, c'est.
Enfin bon.
C'est difficile.
Et puis Jésus est circoncis.
Oui,
c'est pour ça que je pose la question.
Ok, donc. Pour revenir à nos moutons, le blâme n'est pas sur le travail de Pierre, donc la parole de Dieu annoncée aux païens, ce n'est pas non plus sur la conversion des païens, ce n'est pas le baptême qui est mis en cause, et on le voit dans les arguments, ni non plus le fait qu'il ne soit pas circoncis. Sauf qu'on trouvera plus tard qu'il y a quand même des velléités. Mais ici, le reproche est vraiment sur le non-respect du rite pur, impur. Tu prêches aux païens, mais tu n'as qu'à prêcher dehors.
Ouais.
Hein?
Et pas aller manger
sur le parvis, dans le jardin, où tu veux, mais pas chez eux. Tu prêches aux païens, mais tu ne manges pas avec eux. Et encore moins communier avec eux. Là. Pas exagéré, quoi. Donc, c'est bien cette thématique qui est sous-jacente, parce qu'évidemment, dans le judaïsme, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, tout ça est source d'impureté rituelle. Hein. Voilà, si je fréquente trop un païen, si j'accepte de loger avec un païen, si j'accepte de loger moi-même un païen, etc., ou manger, tout ça n'est pas acceptable. Et donc on se trouve quand même devant un vrai casse-tête pour les circoncis, je pense à Jérusalem, hein, un vrai casse-tête devant ce qui s'est passé à Césarée. Et il me semble qu'alors, seul Dieu peut résoudre ce casse-tête. Parce que même si Pierre s'est entouré de précautions, alors rappelez-vous, je pense qu'il y a deux réunions de ça, ben il a quand même choisi six personnes pour l'accompagner, sous-entendu six personnes dont on attend qu'ils soient témoins à Jérusalem. Donc Pierre n'est pas innocent, il sait que ça va provoquer quelque chose. Et donc il a fait en sorte que son discours, ou en tout cas son rapport, puisse être corroboré par X personnes. Six témoins, c'est beaucoup, hein, dans le judaïsme, deux auraient suffi. Donc voilà, comment ça peut se résoudre ce problème, sinon par Dieu lui-même ? Or justement, ce qui est intéressant, c'est, on le verra dans le discours, la suite du discours de Pierre, de la réponse de Pierre aux accusations, s'il n'y avait pas eu l'histoire du Saint-Esprit, du parler en langue, etc., il y aurait eu une non-résolution du problème. Donc heureusement que Dieu était à la manœuvre, heureusement que Pierre n'a rien fait pour que les païens parlent en langue, etc., etc., et que finalement, tout est orchestré par Dieu lui-même. Et c'est donc lui qui va résoudre, aussi à Jérusalem, en tout cas d'une manière, j'allais dire intellectuelle, parce que je crois qu'au fond, dans les tripes et dans le cœur, beaucoup ne sont pas encore prêts à comprendre totalement, hein, même s'il y a une explication à Jérusalem. Mais au fond, il va falloir que Dieu arrive à convaincre les plus durs parmi les circoncis qu'il va falloir accepter les païens à la Sainte Cène. C'est-à-dire au cœur même du mémorial, on ne peut pas avoir une Sainte Cène pour païens, puis une Sainte Cène, vous voyez ce que je veux dire ? Comme il y a eu l'apartheid, les trucs pour les noirs, puis les trucs pour les blancs. Mais c'est inacceptable. Autant l'apartheid était inacceptable, la ségrégation raciale, autant elle l'est dans l'Église, à plus forte raison. Pourquoi ? Parce que ce que Dieu veut, c'est une communauté unie, une vraie communauté, une communauté unie, donc indivisible, mais unie dans la diversité. C'est-à-dire non seulement la diversité des origines, mais la diversité ethnique, la diversité entre juifs et païens, parce qu'ils font partie du même peuple en réalité. Donc la communauté, on pourrait dire, d'une humanité réunie, et ça correspond aux prophéties. L'idée que tous les hommes vont pouvoir vivre en paix, que tous les hommes vont pouvoir œuvrer ensemble, que tous les hommes vont louer Dieu ensemble, ben c'est incroyable, quoi. Donc moi, j'ai vu des choses comme ça en Israël, par exemple, hein, arabes et juifs ensemble, à louer Dieu. Bon, c'est quand même un message percutant. Quand tu vois ça, tu te dis oui. C'est un monde de différence avec les crispations des uns et des autres, quoi. Donc l'idée, c'était quand même qu'il y ait une vraie communauté unie, bien que diverse, dont les frères partageront la même Eucharistie, si vous voulez, le même repas du Seigneur, qui était, je le rappelle quand même aussi, surtout au 1er siècle, généralement organisé dans le cadre d'un repas qu'on appelait agape. D'accord ? Donc tous les dimanches, les gens se réunissaient pour manger ensemble, d'ailleurs. Et très souvent, on mangeait, puis il y avait le culte, voyez. Donc, on mangeait, on pratiquait la scène pendant ce repas-là, et puis on écoutait un tel ou un tel qui avait des choses à nous enseigner, à dire. Puis on chantait, puis... Et parfois, ça pouvait durer des heures, hein. Un peu comme en Afrique. Hein. Voilà. Donc, c'est une demi-journée passée ensemble, c'était pas un problème. Donc, on en est là. Et je pense que sans l'intervention de Dieu, ça aurait dû être un combat beaucoup plus long pour arriver à faire que les païens soient acceptés dans la communauté messianique. Je ne sais pas si c'est clair. Et alors donc, tu faisais allusion à ça, Solivan, mais c'est vrai, quand on regarde les arguments de l'opposition, c'est assez accusatoire. C'est pas gentil. C'est comment tu as pu faire ça, quoi. Comment tu as pu. Comment tu as osé, finalement. Voilà.
Je crois que Pierre s'est étonné aussi. S'il n'avait pas eu la vision, je crois qu'il l'aurait pas fait.
Oui.
C'est ça. Donc il faudrait qu'il y ait une vision aussi au sein du.
Et ce qui est intéressant, c'est que le même Pierre dont on parle est celui de Galate.
C'est ça. Et dans le Galate, là. Bon, il faut savoir que c'est un problème trop profond, parce que même en Galate, bon, les commentaires bibliques ou bien les dictionnaires même parlent que à ce moment-là, Pierre était peut-être 20 ans dans le ministère. Après 20 ans, c'est encore là, tu vois.
Et souvent, c'était la peur du regard des autres.
C'est un œuvre qui continue. Le Seigneur continue à les expliquer. Le Saint-Esprit a continué à les éclairer, donc pour qu'ils puissent comprendre que même les incirconcis fait partie du plan de Dieu, donc de rédemption, tu vois.
Ce qu'il y a aussi, c'est que nous, on les voit comme des chrétiens, mais ce sont des juifs.
Oui, tout à fait.
Ils sont juifs,
bien sûr.
Oui, avec leur culture juive.
Ils baignent là-dedans, puisqu'ils sont dans leur territoire.
Ils se disent, je ne suis pas juif, je suis chrétien, tu peux encore faire le switch, mais tant que tu es juif.
Les deux ne sont pas incompatibles, si.
Sauf qu'à l'époque. Tout n'est pas conciliable.
Ah, tout n'est, bon, c'est l'évolution qui est difficile à faire.
Mais disons que
c'est une évolution.
À l'époque,
ils sont juifs, parmi les juifs, qui suivent la voie enseignée par un juif. C'est même pas un grec ou je sais pas qui serait venu leur dire vous êtes trompés les gars, le vrai judaïsme c'est ça. Non, alors donc ils suivent les enseignements d'un rabbi Yeshua, pour eux tout baigne. Et il n'y a pas encore cette idée de chrétien au sens où nous l'entendons nous aujourd'hui, qui est une étiquette. À l'époque, il n'y a pas d'étiquette, c'est des juifs parmi les juifs. Et comme beaucoup, parce que je vous l'ai dit plusieurs fois, dans le judaïsme du 1er siècle, il y a des judaïsmes. Il n'y en a pas qu'un. Donc il y a toujours des variantes hein, entre les zélotes et les autres, entre les pharisiens et les sadducéens. Chacun vit son judaïsme en disant « mais nous, on pense qu'on est dans le bon » ou « qu'on est meilleur que vous ». Oui, d'accord. Et donc finalement, les juifs messianiques, ce n'est jamais qu'une voie supplémentaire dans le judaïsme qui dit « ah, nous, on vit ça comme ça ». Et la preuve, c'est ceci, c'est cela, Jésus ressuscité.
Ils aiment bien discuter en plus. Hein.
Oui, mais bien sûr, ça fait partie.
Ça fait partie de leur...
C'est peut-être difficile de trouver un exemple qui nous concerne aussi de maintenant. Mais si on réfléchit bien, pour d'autres choses, 2000 ans après la Pentecôte, on est toujours, parfois, dans certaines églises, à discuter sur des sujets qu'on n'a pas encore complètement assimilés.
Bien sûr.
Alors, on peut prendre par exemple la Sainte-Seine, est-ce qu'on fait avec du pain, avec du levain ou sans levain ? Ça fait pas. J'ai vu une église où.
Se battre.
On ne s'est pas battu, mais non, ça a été art.
Ah oui. Il y a
d'autres. Quand on a été élevé dans une tradition pendant des années, et que subitement ça change, on peut avoir aussi des réticences. On ne vit pas la même chose que juifs séparés des païens. C'est comme si on se trouvait européen et africain. Non, il n'y a pas de mélange. Si on réfléchit bien, il peut y avoir des choses dans les églises qui, par le fait qu'on a acquis une tradition, bonne ou moins bonne, ou pas bonne du tout, quand il faut l'abandonner, ça fait un. J'ai vu des gens qui, des années après des conversions, n'avaient pas encore compris que sauver, ça pouvait être sans baptême. Et les personnes ne voyaient le salut possible que quand la personne était baptisée.
C'est pour les baptisés uniquement.
Ouais. Et donc parfois il y a des conflits, enfin des conflits, des discussions de culture dans nos églises qui parfois ne sont pas faciles à gérer parce qu'on se base sur des traditions parfois bonnes ou pas bonnes et il faut apprendre à les abandonner ou à les défendre.
Si tu regardes la réalité donc de tu vas m'aider. Great Commission, donc quand Jésus les a envoyés, si tu regardes même comment l'ordre donc, de Jérusalem, là où vous, donc, beaucoup venaient de là, mais de Judée aussi, de Jérusalem est dans Judée, mais quand tu pars du Judée à Samarie, les choses commencent à changer. Il y avait même des rues que ne peut pas passer. Donc ça commence à changer. Et de Samarie,
dans le monde,
alors encore plus. Donc ça te montre combien le. C'est vrai, nous devenons chrétiens, mais la culture, donc l'influence de l'environnement social, l'environnement physique, papa, maman, l'environnement où on a grandi, a aussi un poids sur nous. Bon, l'évangile vient à nous pour nous transformer et l'évangile reste encore d'autorité, mais la culture parfois devient d'autorité. Et comment dire,
C'est vrai partout.
Et oui, voilà, c'est ça. Donc la maturité, alors la maturité, c'est un procédé. Bon, le salut, la justification, ça se fait comme ça, mais la sanctification, c'est un procédé là-dedans. Ce qui s'est passé à nous commence à transformer la façon dont on voit les choses, la façon dont on interprète les choses. Parce que La culture doit être transformée par l'évangile. Mais c'est un procédure.
Mais les différentes cultures, si elles peuvent être assemblées avec, comme tu le dis, l'évangile, alors, ça peut être une source de richesse.
Oui, c'est ça. Donc,
au lieu d'être à combattre, tu vois, j'ai raison, toi pas, etc. C'est d'être interpellé et dire, tiens, ils disent comme ça, est-ce que bon. Et voilà, ils recherchent.
Il y a deux. La première chose, c'est quand tu. Quand tu veux que les autres qui n'ont pas dans ta culture d'abord reçoit ta culture pour qu'elle puisse être acceptée, ça c'est un. Mais il y a une autre façon, quand tu sors de ta culture pour embrasser, donc pour entrer dans la culture, afin que tu puisses d'abord comprendre la culture et chercher là où tu vas accommoder la culture dans ta culture. Ça c'est deux. Alors c'est toujours un procédure. Et puis il y a une façon dont tu dis, c'est la troisième. Alors ça c'est ce que je trouve beaucoup de gens disent. Et ce n'est comme ça. Moi je vais aussi rester comme ça. Mais il y aura toujours une barrière, tu vois. Tu ne veux même pas manger avec eux parce que tu les laisses avec la nourriture. Tu ne veux même pas, donc voilà, les rendre visite dans leur maison comme les Juifs. Mais ça, c'est parce que Dieu veut. Et Dieu nous a montré l'exemple. Jésus est Dieu, mais il est devenu homme, si on peut dire d'une façon culture. Il est sorti de ce qui était, voilà. Et puis il a pris cher, il est venu. Donc, on te montre combien le miracle d'incarnation a aussi un message de comment Dieu a voulu que la culture ne soit pas juste, voilà, ne soit pas le blocus. Et c'était même avant, dans l'Ancien Testament, la Genèse, Dieu montre réellement qu'il a voulu que sa gloire puisse chanter, puisse être embrassée par toutes les langues, toutes les tribus et toutes les nations. Regarde quand Salomon a fini à bâtir le temple. Où est la prière? Il a dit la prière. Dans la prière, il parlait toutes les nations, toutes les langues et toutes les tribus. Mais tu vois, c'est parfois facile à voir, mais la réalité, alors, donc, la réalité et ce qu'on a dans nos têtes, c'est différent parfois. Alors, c'est un peu différent et difficile. Pour eux, c'était difficile, mais aussi pour nous aussi.
Pour nous. Mais c'est, tu disais les trois catégories, là. Pourquoi pas une quatrième? C'est d'écouter l'autre, comment il vit, ses cultures, essayer de le comprendre. Comme lui devrait faire la même chose avec nous, et plutôt que de revenir faire un mur, etc., c'est d'essayer de vivre ensemble.
Mais il y a beaucoup. Je te donne un exemple, comme ils ont dit quelque chose comme ça. En 16e siècle, donc voilà, on a eu des missionnaires en Afrique. Tu vois? Bon, les premiers étaient des Portugais, les catholiques. Ils viennent dans un continent différent, très différent de notre continent. Culture très différente. Tu vois, trop comme ça. Tu t'imagines que c'était facile pour eux?
Non.
Très difficile. Pas pour eux seulement, mais aussi pour les Africains. Tu vois, dans tous les côtés alors. Alors, il y a deux cultures qui sont en train de se croiser. Alors, boum. Ok, ça vient même dans mes études là. Bon, mes conclusions. Ils n'avaient pas même ce qu'on a aujourd'hui, mais ils ont essayé, de ce qu'ils avaient, à pouvoir communiquer cet évangile d'une façon que les Africains puissent l'attendre, mais c'était trop dur et difficile. C'est pourquoi, à la fin, on finit par « Vous devrez devenir comme nous, comme les Juifs, pour que vous puissiez être acceptés comme les chrétiens. » Tu vois ce que je dis? Parce qu'il y avait des cultures qui étaient trop étranges pour eux, pour qu'ils puissent les pénétrer et aider les Africains à comprendre que cette culture, il y a ce qu'on doit garder avec, ou bien ce qu'on doit jeter, tu vois. Alors, savoir quoi on doit garder, quoi on doit jeter, en œuvre du Seigneur. C'est ce que même les apôtres cherchaient. Est-ce que, qu'est-ce que vous voulez dire par impire et pire? Ils, ont, ils vont garder quoi? Ils vont jeter quoi? Tu vois? Alors, pour te dire, bon, pour simplifier les choses, c'est en œuvre de Dieu qui, d'abord, change la façon dont on pense à nous-mêmes, à notre culture. Mais voilà, on passe d'abord à l'évangile. Parce que l'évangile, c'est ce qui vient briser tout ça, toute notre façon de voir les choses. Alors, c'était dur, même maintenant, c'est toujours un travail à faire.
Alors,
si tu veux.
Donc, ce travail est toujours fait par le Saint-Esprit.
Oui, c'est ça. Donc, on participe pas à sa place.
C'est là que se trouve le problème. Mm-hmm. Quand, comment évangélise-t-on? Comment touche-t-on une autre culture? Est-ce qu'on le fait du haut de son arrogance et de son savoir? Est-ce qu'on oblige les gens à suivre tel ou tel truc, etc.? Et au fond, ce que les Européens ont mal fait, il faut quand même le dire, c'est dans tous ces contacts avec d'autres continents, parce qu'il n'y a pas que l'Afrique, malheureusement, on a essayé d'imposer nos modèles basés sur nos cultures. Donc notre manière d'avoir compris l'Évangile, mélanger un plus avec un peu de coercition, un peu de violence, un peu de ci, un peu de là, pour faire grandir une église. Or, on a oublié, nous, Européens, à quel point toutes les cultures, cette fois-ci, il faut parler au pluriel, y compris la nôtre, mentent.
Exactement.
Elles mentent, elles ne disent jamais la vérité. Ou elles disent des demi-vérités. Elles s'arrangent avec l'histoire, etc., etc. Donc il n'y a aucune culture qui soit dans la vérité. Et l'impact de l'Évangile, c'est justement de questionner toutes les cultures, de dire « Ah, tu crois avoir compris, mais en fait, moi je dis que, donc Christ dit que, dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc. » Non, c'est ça. La rencontre d'un homme, d'un individu avec Jésus autour de l'Évangile fait qu'il est interpellé non seulement dans sa vie individuelle personnelle, mais dans la vie tout court, c'est-à-dire dans toutes les attaches qu'il a avec la culture dans laquelle il est. Et Dieu sait si nos cultures, hein, si on regarde d'un continent à l'autre, sont terriblement différentes. Et pourtant, toutes ces cultures sont transcendées par l'Évangile. Elles sont touchées, et puis des gens se tournent vers Jésus, quelle que soit la culture et le mensonge de la culture. Alors j'avais fait un travail en Afrique avec des amis, on était au Togo, au Bénin, etc. On a fait une série de formations dans lesquelles on demandait à chaque ethnie de se regrouper. Donc dans la salle, on avait divisé tout le monde par ethnie. Et puis on leur avait demandé des questions bien précises. Comment se passe telle situation dans votre culture? Et qu'est-ce que vous pensez de l'autre ethnie qui est à côté? Et alors là, tout le monde est venu avec des histoires incroyables. Alors ça peut être sur les le regard sur les pygmées, ça peut être le métissage, mais ça peut être le mariage entre tel et tel. Et dans tout ça, la conclusion de ces groupes, c'était... Donc chacun avait pu dire ce qu'il avait à dire, chaque groupe a pu se positionner, et en même temps, à la fin de la journée, reconnaître qu'aucune n'a raison. Aucune des cultures n'a raison, notamment sur ce qu'elle croit de l'autre, de ce que l'autre croit, de ce que l'autre fait, ou de ce que l'autre fait mal, etc. Et c'était très très intéressant. Alors ici, on aurait difficile, parce que les notions d'ethnie a un peu... disparu dans la masse, même s'il y a des Wallons et des Flamands, et que c'est quand même très différent. Mais on n'a pas ce genre de problématique qu'on peut rencontrer en Asie, en Amérique du Sud, ou ici, en Afrique, où chaque tribu est assez rigide, si vous voulez. Chacun a des règles bien précises, qui fait que, voilà, le travail de l'Évangile va être différent en fonction des cultures qu'on touche, quoi.
Jésus a prié dans Jean 17 et il disait j'ai des autres brebis parce que ma voix.
Oui.
Est-ce que tu penses que il comprenait ce que Jésus disait là? Ben, c'est ce que je voulais juste te demander. Il a dit, moi,
C'est Jésus a parlé clairement, mais
clairement. Comment... Donc il a dit, j'ai des autres brebis. Il a prié pour ces autres brebis. Mm-hmm. Mais il a dit, ces brebis ne sont pas
les vôtres.
Il y a d'autres, voilà.
Il
m'était clair encore une fois combien Dieu a voulu, pas seulement vous, mais aussi les autres. Alors il nous faut un œuvre du Saint-Esprit en nous, pas la parole évangile, pour pouvoir comprendre que Dieu a aussi d'autres brebis.
Et ça, dans les prophètes, tu retrouves le nombre de prophéties liées aux nations et à l'ouverture aux nations et au Dieu des nations. C'est assez surprenant. Et tu te dis, alors comment c'est possible qu'au 1er siècle, le judaïsme ambiant n'est toujours pas compris, tu vois, que quelque part, il y a un moment donné où le judaïsme doit déborder sur les nations. Mais ce que je pense, en tout cas, c'est pas que qu'Israël aurait mal fait. Mais je pense que sans l'incarnation... Sans la mort et la résurrection de Jésus, rien n'était possible. Et donc il a fallu tout ça, y compris ce qu'on est en train d'analyser avec l'affaire Corneille, pour que Dieu lui-même nous force la main. Force la main autant aux Juifs qu'aux païens. Parce que les païens, notamment les Romains, avaient plutôt un regard pas compatissant pour Israël, quoi. Donc voilà que tout d'un coup, les premiers à entrer officiellement dans l'Église, c'est les Romains. C'est-à-dire ceux qui oppriment Israël. Quand même dingue, quoi. Pourquoi ils n'ont pas été chercher des gens plus cool, plus neutres, hein, style grec, je sais pas, moi. Non, non. Donc c'est vraiment comme si Dieu tapait sur un clou, quoi. Et puis, il ouvre les yeux, et il ouvre les yeux sans maladresse et sans violence, c'est-à-dire on le voit puisqu'il a fallu du temps, même pour Pierre, du temps encore et du temps encore pour comprendre ce que ça implique réellement, ce que c'est que pratiquer la vie d'église entre juifs et gentils, ce que ça veut dire au moment de la Sainte Cène ou de l'Eucharistie, au moment des agapes. Parce que non seulement ça, mais on a, nous, du mal à comprendre que parmi ceux qui vont être convertis dans le monde païen, il y a une majorité d'esclaves. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, maître et esclave, c'est ce que Paul dit, en tout cas, dans certaines de ses lettres, se retrouvent ensemble dimanche. Libres, frères, vous voyez ce que je veux dire? Plus dans un rapport de force, c'est là que, jusque-là, va la révolution. Les esclaves, c'est monnaie courante hein, dans l'Empire. Hein. Ouais. C'est des millions de personnes qui sont asservies. Et pourtant, ceux-là vont aussi se tourner vers l'Évangile avec leur maître. C'est surprenant, quoi. Et donc, moi, j'aime bien cette idée que Dieu continue à travailler dans nos propres vies tout au long de notre vie. Parce qu'en fait, cette transformation, le fait de bien discerner qu'est-ce qui est faux dans ma culture, qu'est-ce qui est faux dans mon histoire, qu'est-ce que je ne veux plus, moi, vivre, mais me rapprocher vraiment de cette notion d'évangile et de frère et de fils de Dieu, ça implique des changements qui souvent sont très mal compris par les autres.
Est-ce que je me trompe en pensant que déjà dans l'Ancien Testament, il y avait possibilité pour des non-juifs d'entrer dans la religion juive, mais on devait voir cela comme étant, ils étaient absorbés dans la religion juive,
oui.
Et elle ne restait qu'une unité,
oui, tout à fait.
Non débordable.
Mm-hmm. Tout à fait.
Ils devaient intégrer, tandis que maintenant, ils sont en train de découvrir qu'il y a complète unité. Tout en étant hors du peuple juif, pour les faveurs de Dieu, pour la grâce de Dieu.
Et c'est quand même ça la révolution. Pas dans un mauvais sens du terme, mais donc Dieu accomplit ses promesses en forçant un peu les mains de son peuple, hein, en réalité. Pour que les prophéties deviennent une réalité. Et qu'au fond, la promesse faite à Abraham s'accomplisse. que toutes les nations soient bénies par ce peuple et par la foi d'Abraham, par conséquent. Alors nous, on peut peut-être le comprendre, puisque comme tu dis, maintenant qu'on a le corpus biblique, Ancienne et Nouvelle Alliance, il y a des tas de choses qui peuvent être claires pour nous, mais qui ne l'étaient absolument pas au moment des faits.
C'est sûr.
Donc moi, je comprends les hésitations, je comprends les peurs. C'était pas simple.
Bon, je pense que c'est toujours difficile pour nous, comme c'était difficile pour eux.
C'est différent.
Nous ne comprenons pas aussi.
Écoute, ah non, je ne comprends pas, mais c'est différent.
Je ne sais pas.
D'une façon, bon, comment dire, l'Évangile, d'une façon claire, donc, comprenez vraiment le nouveau nous en Christ. C'est toujours en procédure. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui continue en nous. Parce que, comme tu l'as dit, nous voulons encore ce travail que Dieu doit faire en nous, par sa parole et par son esprit.
Parce que quand même, la sécurité pour nous, c'est la croyance de ma culture.
C'est ça. Donc,
on retourne facilement
exactement, à ces croyances. Exactement, c'est ça. Et donc, de pouvoir visiter notre culture encore et savoir accepter que la lumière de l'Évangile éclaire sur notre culture, nous montre qu'est-ce qu'on a, comme tu as dit, où est-ce que notre culture devient l'autorité et veut que la Bible suit, ou bien où est-ce que la Bible, tu vois. Parce que c'est ce qui nous aide. Bon, si réellement, il y a beaucoup de choses là. Comme je disais, c'est une œuvre de Dieu qui continue à nous. On ne peut pas dire, moi j'ai atteint, c'est fini. Non, c'est vraiment une œuvre de Dieu qui continue à nous. Et puis voilà, tu arrives à savoir. Vraiment, la Bible, l'Évangile reste toujours l'autorité, pas ma culture. Et voilà. Et puis, voilà, c'est là où on trouve que réellement, c'était pas du tout facile pour eux, comme c'est pas facile pour nous aujourd'hui.
Et du coup, si on est différent, avec l'Évangile en tout cas, si on est différent, si on est d'origine différente, de langue différente, on est appelé à vivre l'unité. Avec sans doute des tiraillements, parce qu'on ne se comprend pas toujours, etc. Mais c'est le but. Sinon, ça n'a pas de sens. Être un peuple pour Dieu qui serait désuni, ça n'a pas de sens. Ok, peut-être passons à des applications, puisque je crois que le texte en lui-même, on l'a bien survolé, on en a compris globalement le sens. Est-ce qu'il y a quelques conclusions qu'on peut tirer de ce long passage de la fin de 10 et puis début 11.
Tu avais dit que tu voulais un petit peu revenir sur les derniers chapitres, le dernier verset du chapitre 10, que tu voulais redévelopper quelque chose. Tu l'as fait ou tu voudras encore le faire?
Ce que je voulais développer, c'est plus ou moins ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire sans la survenue de l'Esprit-Saint, de manière spectaculaire et puis indiscutable, il n'y aurait pas eu de changement. En tout cas, le changement aurait été peut-être mis 5 siècles avant de parvenir. Peut-être qu'il aurait fallu plus de maturité, mais en même temps, je trouve que Dieu sait ce qu'il fait. C'est-à-dire, dès le commencement, en n'attendant pas trop que s'installent des habitudes, tu sais, comment on est juif messianique, parce qu'il y a 100 ans qu'on vit comme ça. Non, non. Lui, il attend le bon moment et paf, en plein essor de cette visée messianique, la preuve, c'est la tournée de Pierre, eh bien, il fait intervenir un élément incroyable, impensable, que des païens, et notamment des Romains, puissent non seulement accepter la parole de Dieu, comme dit le texte ici, mais être officiellement intégrés par Dieu lui-même dans la communauté. Ça c'est indiscutable.
Ça, c'est l'homme qui pense ça.
Non, mais c'était.
Dieu en est convaincu.
Oui, oui. C'était important que ce soit Dieu qui le fasse et pas que les hommes s'en soient mêlés. Parce que là, ça aurait été discutable. Pierre n'est pas rentré à Jérusalem en disant : vous voyez, moi j'ai fait ça, je crois que c'est une bonne idée, j'ai innové. Il n'a pas innové, il a subi comme tout le monde. L'intervention de Dieu, dans ce groupe de païens, et puis il a suivi, il a essayé d'obéir autant que faire se peut au contenu de sa vision, et puis à ce que le Saint-Esprit lui disait.
Ce que j'ai bien aimé que tu as fait remarquer, c'est que Pierre n'a même pas le temps de terminer sa prédication.
Ah, oui.
Le Saint-Esprit descend sur eux. Non. Ça, c'est vraiment une acceptation de Dieu, quoi. Avant que la compréhension ne vienne
du message, fini.
Il n'a pas fini son message.
Non, oui, exactement.
Mais pour Pierre, c'est énorme.
Ah oui, c'est énorme.
C'est énorme.
Mais si il va l'expliquer, il va dire aussi.
Oui, mais c'est énorme. Oui, mais c'est énorme parce que il y a un être supérieur là qui le guide vraiment.
En tout cas, il y a quelque chose d'incontestable.
Ah, voilà,
et en plus de ça, il a des témoins avec lui qui peuvent dire que c'est effectivement passé comme ça. Donc c'est totalement indiscutable.
Voilà, c'est ça qui est fort, ça.
Et c'est bon, voilà. Ok, alors peut-être application. Moi, je vais rebondir sur un truc, si vous voulez, parce que c'est toi qui m'y as fait penser, Bernard, encore tout à l'heure. Dame Sullivan, dans certains de ses arguments aussi, est-ce que nous ne sommes pas, nous aussi, ou j'allais dire nous encore, comme les Juifs d'alors? C'est-à-dire dans la difficulté d'accueillir les païens d'aujourd'hui. Parce que les païens d'aujourd'hui, ben, c'est ceux d'un monde post-chrétien. C'est ceux d'un monde qui a été évangélisé, alors plus ou moins bien, on ne va pas se faire la guerre pour savoir si c'était une bonne évangélisation, mais qui s'est amplement sécularisé. Et quand on dit sécularisé, je suis gentil. C'est-à-dire que ceux qui sont aujourd'hui non-chrétiens, non-croyants, je ne parle pas des gens militants, athées, etc., je parle des gens qui pensent que voilà, l'Église, c'est pas important, ça ne vaut pas la peine. Ce sont la plupart des temps, aujourd'hui, des gens qui ont des valeurs et des mœurs qui sont aux antipodes, non pas de l'Église, ça je m'en fous un peu, mais de l'Évangile. Donc on est retourné dans une sorte de paganisme qui est peut-être pire que le paganisme d'autrefois. Pourquoi je dis ça? Parce que le paganisme d'autrefois, et je pense que Sullivan va me comprendre, il était régi par des règles internes aux ethnies. Donc dans les croyances culturelles, il existait quelque chose de spirituel. Mais aujourd'hui, nos païens d'aujourd'hui, la spiritualité à laquelle ils sont adonnés, c'est la course au pognon, c'est le grand capital, c'est tout ce que tu veux. Et ce sont aussi des mœurs très libertaires, à tout point de vue. Et le résultat, c'est quoi? C'est comment, moi, en tant que croyant aujourd'hui, je pourrais accepter ce type de païen-là, dans les mêmes rangs, sur les mêmes bancs d'église. Mais moi, je crois que ça ne va pas de soi. Et je crois que l'église doit arrêter de se mentir à elle-même. Ce n'est pas simple aujourd'hui d'évangéliser le monde dans lequel on est. Non seulement en termes de moyens, si vous voulez, mais en termes de rétribution après. Si tu as touché des gens et que ces gens viennent à l'église, est-ce que ça va se passer simplement ? Des gens blessés, des gens maltraités, des homosexuels, des... je sais pas moi. Voilà. C'est la réalité d'aujourd'hui. Donc on peut se dire que quelque part, on a aussi cette difficulté et que ceux qui débarquent alors du monde, là, ou d'autres religions, hors du judaïsme et du christianisme, je pense qu'on a aussi du mal avec ça. Et donc quand on parle de culture, tout à l'heure, on parle de ça. La culture post-chrétienne d'aujourd'hui est une culture diamétralement opposée à l'Évangile, habitée par quelque chose de nocif pour les gens eux-mêmes, hein, attention, et pour la société dans laquelle on est. Donc du coup, si c'est ces gens-là que Dieu touche et amène par le moyen de notre témoignage ou de l'enseignement, d'Internet, de la prédication, tout ce qu'on veut, comment va-t-on les aider?
Bon, accueillir, tu veux dire.
Oui, comment va-t-on les accueillir, mais surtout comment on va les aider à grandir et à faire ce travail dont on parlait tout à l'heure, qui est d'interroger sa culture et le mensonge de sa culture. Allez, je donne un exemple concret, vous avez tous en tête certainement, mais quand on voit l'enseignement aujourd'hui dans les écoles, et notamment l'enseignement lié à la sexualité, imaginons que ce soit dans 25 ans. 25 ans d'enseignement de ce type. Tout est bon, tout se vaut. Alors, entre le désastre psychologique d'une part, mais surtout le désastre dans le corps, dans la chair, on peut imaginer que ceux qui seront touchés par l'Évangile vont devoir être fameusement aidés. Non pas pour corriger le tir, mais pour se laisser interpeller par l'Évangile, pour arriver à modifier avec l'aide de Dieu ce qui est à modifier dans leur vie. À mon avis, ce sera beaucoup plus dur que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et donc, il faut s'y préparer aussi, en tant qu'Église, à devoir peut-être trimer plus qu'autrefois. Aussi bien en termes d'accueil, je te rejoins là-dessus, qu'en termes de comment on enseigne des gens qui ont été complètement blackboulés par un enseignement. Je parle de l'Occident, parce que je ne parle pas d'ailleurs. Mais c'est effroyable pour moi. Je pense que ce ne sera pas facile. Donc ça, c'était une application auquel je pensais de qu'on ait bien ça en tête et qu'on se prépare petit à petit à tout ça, quoi. Et à être acteur, évidemment, là-dedans. Autre chose ? Sur ce long passage de fin chapitre 10. Non, mais on fait l'ensemble.
Simplement, peut-être remarque, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Entre ceux qui prennent la Bible et ceux qui sont suivis, et les païens. Il y a des bons païens aussi, qui ne croient pas, et qui peuvent avoir des valeurs.
Oui, pourquoi pas.
Tu vois, qui ne croient pas, comment on couple...
Je suis d'accord avec toi.
Tu vois, c'est ça. Moi, je n'aime pas trop ce clivage.
Mais si tu prends conscience que la pente sur laquelle on est aujourd'hui, si elle s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire sur au moins l'espace d'une génération, 25 ans. 25 ans d'enseignement non scientifique,
Mais
quand je le dis,
enseignant,
non fondé, pure propagande.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi.
On se lessive le cerveau pendant 25 ans, je ne sais pas si c'est si évident.
J'ai peur, tu vois, de dire parfois quelque chose ici. Mais j'ai mon beau-père qui a été élevé dans un orphelinat catholique. Ce qu'il me racontait, c'est pas gay non plus, je t'assure. Bon, c'est tout. Ce n'est qu'un point. Je veux dire par là que tout n'est pas parfait, tout n'est pas idéal. Qu'il y a des... Il ne faut pas être aussi, pour moi, catégorique.
On est d'accord, mais...
Enfin, c'est mon avis. Mm-hmm. Hein? On a parlé du baptême. Quand on est venu chez les protestants, ça a été un gros problème pour ma femme. Pourquoi se refaire baptiser alors qu'elle était baptisée? Mm-hmm. C'est un pasteur qui a été retrouvé, mais je ne sais pas quel verset, que pour être baptisé, il faut être conscient de ce que l'on fait. Et que c'est un engagement personnel. Quand tu as un gosse qui est baptisé à 3 ans ou 2 ans, il ne sait pas ce qu'il fait. Ce sont ses parents qui s'engagent.
Bien sûr.
Mais ce n'est pas lui, tu vois. Et c'est ça qui a fait que finalement, elle a été baptisée avec moi. Hein, mais elle a été baptisée parce que là, elle a pris conscience de l'acte qu'elle a fait. Hein, voilà. Tu vois, ce sont des petites choses. Maintenant, comme tu as dit très bien, le baptême, ce n'est pas que ça qui fait. Bon, moi on m'a dit que le baptême, etc., c'est un acte public qui dit que tu fais vis-à-vis de la communauté, que tu fais un acte de foi et que tu dis je m'engage pas. Tu vois? Mais ça n'a pas de valeur, le sauvetage, si je peux m'exprimer comme ça.
D'ailleurs, tu as des églises où il n'y en a pas, oui.
Hein?
Il y a des églises où il n'y en a pas.
Ouais. Ah, c'est le salut, par exemple. Ouais. Comme on l'a entendu.
Il
n'y
a pas de baptême.
Hein?
À l'armée du salut, il n'y a pas de baptême.
Non. Je ne savais pas qu'il y a des églises où il n'y avait pas de baptême. Tu vois? Ouais. Mais comme on l'a encore dit à l'église, pour certains, dans le temps, il fallait faire des actes pour être sauvé, etc.
Il y a d'autres choses, mais on définit différemment comme... il n'est pas défini comme dans les autres églises. Bon, mais il croit au baptême.
Oh, il ne conteste pas.
Non, il ne conteste pas, il ne le pratique pas.
Il ne le pratique pas.
Il y a des églises protestantes en Hollande qui baptisent encore les enfants. Hein. Et pourtant, ce sont vraiment des frères en Christ qui ont reçu la nouvelle naissance, mais ils baptisent les enfants.
Après, il y a peut-être quelque chose. Après. Bon, je vais prendre un exemple. Mes enfants. Parce que mes enfants ont été baptisés, et comme je l'ai dit à Guy l'autre jour, ce n'est que, je ne sais combien d'années après, vers 17-18 ans, qu'ils ont fait leur confirmation à Ninan. Et là, c'est un
tout le milieu
personnel. Donc tu vois, il ne faut pas généraliser, chacun a sa façon peut-être de faire, de comprendre. Et c'est pour ça que je n'aime pas quand on est au juge ou au fait. Non, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Là, je dois dire que personnellement, moi, je n'étais pas croyant à ce moment-là. Ma femme m'a suivi et mes enfants ont été baptisés. Donc, quand il y avait 7-8 ans, je ne sais plus combien, à Ramsey. Hein. Et puis, ils ont été en confirmation, je ne sais combien d'années après, à Ninan. C'est un curé qui venait. Et ce n'était pas un jour, hein, c'était une semaine. C'était une semaine.
Ah, hein.
Oui, mais il y a toujours des exceptions. Hein.
C'est l'enclave.
J'aimerais peut-être rebondir sur tout ce qui vient d'être dit. Et Robert m'a donné une puce à l'oreille. Et c'est vrai que. C'est vrai qu'il y a tellement de culture, il y a tellement de vision, il y a tellement qu'on ne peut pas catégoriser par deux camps.
C'est ça.
Mais il y a un mais.
Toujours.
Et l'histoire de ça me frappe déjà depuis quelques leçons. Et si vous vous souvenez bien, je vous ai dit l'histoire de Corneille nous apprend quand même quelque chose d'important. Corneille vient de païens, romains. On a vu les Turpiens eunuques, on a vu les apôtres, les frères, et on commence à voir une panoplie de personnes qui viennent de différentes catégories.
Ben ouais.
Mais il y a quelque chose qui les rassemble, c'est ce que nous appelons dans la Bible le baptême du Saint-Esprit. C'est le moment où l'Esprit nous permet de comprendre l'Évangile. Paf, c'est là qu'on devient l'enfant de Dieu. Et que ce soit juif ou que ce soit païen, il faut que ça se passe. Il a fallu que Corneille passe aussi par là. Et pourtant, rappelons-nous, Corneille était réputé pour sa foi, sa piété, ses œuvres. C'était quelqu'un de formidable.
Mais il était
presque
romain.
Un exemple.
Mais il était romain.
Il était romain.
Voilà.
Aux yeux de Dieu, c'est pas grave. C'est pas un blâme.
Ah non, aux yeux de Dieu.
Mais il était reconnu par ses frères juifs, apparemment.
Tout à fait.
Mais,
voilà,
le texte nous le dit.
Mais il a fallu aussi que le Saint-Esprit inonde la vie de ses spectateurs qui entendaient le message, tout comme les juifs. Et ça nous rassemble. Devenir l'enfant de Dieu. C'est la prérogative de Dieu qui agit dans notre cœur. Suivant qu'on se situe dans cette case-là, ou dans cette case-là, ou dans cette case-là. Je pense à encore un message il y a 10 jours. Mais quelle que soit la case où on se trouve, quand Dieu veut ouvrir la case et nous amener au salut, en tenant compte de toutes nos cultures, de nos croyances, etc., il va subitement nous permettre de pouf.
et on
en parlait avec Sullivan encore hier, ou avant-hier, je ne sais plus. Nicodème, c'est pareil. Nicodème qui a été voir Jésus, et Jésus lui dit, alors qu'il était docteur de la loi, c'était pas n'importe qui, il lui dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Et l'autre lui dit, mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes là? Je ne veux pas rentrer dans le ventre de ma mère. Et il dit, comment, tu es docteur de la loi, tu ne comprends pas? Il fallait que lui aussi comprenne que ce que Jésus a voulu dire, retourne dans l'Ancien Testament et voit que Dieu nous a promis qu'on va être lavé d'une eau pure. Et que cette eau pure, c'est le Saint-Esprit qui va descendre. Et quand quelqu'un comprend l'Évangile, alors ramenons ça à aujourd'hui, quand quelqu'un comprend l'Évangile, quel que soit son arrière-plan de piété ou d'athéisme ou de n'importe quoi, mais quand le Saint-Esprit touche une personne et qu'il la plonge dans la famille de Dieu, qu'il la plonge dans la compréhension de ce que Jésus a fait pour nous, ça se passe autant pour un juif que pour un païen. Et ça, ça c'est unique. Et c'est, il n'y a pas d'autre solution. Mais, quelle que soit notre culture. Ou...
Et ça le sort de sa culture. Hein. Quelque part, ça le sort de l'endroit où il est pour le faire rentrer dans le mouvement, dans l'annonce de la
bonne nouvelle. Il doit y avoir un changement.
Ah oui,
absolument. Les Juifs ont changé.
Oui, les Juifs ont changé.
Corneille a changé. Nicodème a changé. Les Africains ont changé. Les Européens ont changé. Les Asiatiques ont changé. Dès que. Tu l'as encore dit tout à l'heure, hein, un arabe qui peut prier qu'un juif, quand ils sont chrétiens, ils ont changé tous les deux. Et ça, c'est une vérité que Corneille m'inspire, c'est que même tous les talents qu'il avait, tous les mérites qu'il avait, il a fallu quand même qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et les apôtres aussi, hein, parce que je me souviens que dans un évangile, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Luc, où il est dit qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et on ne le dit qu'une seule fois. Il fallait que ça se passe pour eux, la Pentecôte.
Est-ce que vous trouvez aussi ça, tu dis pareil, de catégorie, est-ce que vous trouvez ça aussi qui nous amène à comprendre que quand Dieu regarde le monde, quand Dieu regarde le peuple qu'il a créé, est-ce que tu penses qu'il a des catégories, ceux qui ont un peu grand, petit, je ne sais pas,
de s'arracher les cheveux. Hein.
Si tu lis la Bible,
s'il en a, oui.
Si tu lis la Bible, on n'a que deux catégories. Deux. Toute la Bible ne montre que deux catégories.
Ceux qui croient.
Ceux qui croient et ceux qui passent. C'est deux. Et croyez-moi, c'est ce que la Bible continue à souligner. Deux possibilités, deux catégories. Deux possibilités, deux catégories. Tu es parmi ceux qui vont recevoir sa colère le jour où viendra, ou bien tu es parmi à ceux qui, voilà, recevoir, vivre avec lui éternellement. Donc, c'est deux catégories, les enfants de Dieu et ceux qui ont...
Mais en Afrique, il y a des gens qui n'ont jamais été en contact avec...
Pardon ?
En Afrique,
oui.
Et même dans d'autres, en Amérique du Sud ou quoi, oui. Il y en a qui n'ont jamais été en contact avec la Bible.
Avec la Bible.
Oui.
La Bible est claire pour ça aussi.
Ben oui, c'est ce que je dis. Exactement. C'est la troisième catégorie.
Et c'est pas la troisième. ça tombe dans le deuxième encore.
Oui, ça tombe aussi dans le deuxième.
Parce que la Bible montre que eux-mêmes, il y avait des choses qui devraient les aider à comprendre l'Évangile.
Oui.
Alors, pour finir, c'est vrai, il y a des choses qui peuvent nous distinguer, je ne sais pas, ceux qui croient dans ces choses, le baptême, tout ça. Ils sont des mineurs pour moi, parce qu'il y a ce que la Bible souligne tout le temps. Alors, si tu veux, Nicodème, Cornélien, représente beaucoup d'aujourd'hui, parce que parfois nous pensons que nous sommes bien, nous sommes beaux païens. Ce que toi, utilisé le mot un beau païen. Mais ça ne sauve pas.
Ah, je n'ai pas dit que ça sauvait.
Je sais. Ça ne t'aide pas de sortir dans la catégorie de ceux qui vont périr éternellement et entrer dans une catégorie.
Ça, un pasteur m'a dit, seul le Seigneur juge.
Ah, merci beaucoup.
Il doit être à l'œuvre.
C'est pourquoi même l'ange a dit à Cornélien, c'est bon, il y a tous ces critères, mais ça ne suffit pas, Cornélien. Tu vois, parler à Pierre.
Okay.
Nicodème, la même chose.
Ça vous va si on arrête là? Il est 21h11.
Oui, hein.